rime à quoi ? Ça rime à quoi en compagnie de Pierre Parlant ? Les courtes habitudes que vous publiez dans les pas de Nietzsche à Nice, Pierre Parlant, dans cette collection antiphilosophique collection, comme il est dit chez les éditions Nous, c'est un titre, Les courtes habitudes, qui va à l'encontre de l'idée que l'on peut se faire de l'auteur du Crépuscule des idoles ou encore d'Ainsi parlait Zarathoustra, parce que chaque fois Nietzsche c'est immense, et là tout d'un coup les courtes habitudes, ça fait tout drôle.
Je dois dire, pour que les choses... soit pas ambigu, que Les courtes habitudes, c'est un titre que j'ai volé à Nietzsche. C'est en réalité un paragraphe du Gai Savoir qui s'appelle ainsi, et qui est un paragraphe très étonnant, puisque c'est un texte dans lequel Nietzsche fait l'éloge des habitudes en tant qu'elles doivent être brèves, parce que qualitativement, on va y trouver une intensification de l'existence, d'une part, mais en même temps, toutes brèves qu'elles sont, Nietzsche insiste sur le fait qu'on ne pourrait pas vivre sans habitude. Donc il est dans une espèce d'ambivalence très étrange, ou de double contrainte très étrange. Nous ne pouvons pas ne pas vouloir des habitudes qui soient brèves, sauf à se scléroser, mais dans le même temps, nous ne pouvons pas ne pas vouloir des habitudes tout court, parce qu'une vie sans habitude, ce serait le chaos, et elle serait proprement invivable. Il dit même que ce serait une Sibérie.
Et pour vous, Pierre Parlant, c'est en tant que philosophe-poète que vous avez tenu à mettre vos pas dans ceux du poète-philosophe du Gai Savoir, qui plus est à Nice, parce que le livre est sous-titré « Nietzsche à Nice ».
Alors, s'il est sous-titré « Nietzsche à Nice », c'est qu'effectivement, il se trouve que je vis dans cette région et que la présence de Nietzsche à Nice est pour moi effective, même si elle est très... clandestine.
Hein, et touristique un peu.
Et touristique un petit peu, mais enfin... On trouve une plaque ici ou là.
Et un chemin de randonnée.
Et on trouve un chemin du côté
qu'il n'a peut-être même pas emprunté.
Voilà, du côté de Hèze. En tout cas, le chemin est très beau et le paysage l'est autant. Si c'est Nietzsche qui, effectivement, est à l'origine de l'écriture de ce livre, c'est peut-être surtout pour cette formule que j'ai gardée, d'ailleurs, dans le livre et qui commence la deuxième partie. Si je peux peut-être me permettre de la lire. « Je suis resté poète dans toutes les extensions de ce terme, dit-il, bien que je me sois toujours, souvent, tyrannisé avec le contraire de tout ce qui est poésie. » Cette étrange situation qui consiste à, au fond, à savoir quelle est sa nature et à avoir à lutter pour que cette nature s'actualise.
C'était quoi être poète pour Nietzsche, dans tous les sens de l'extension de ce terme ? Quand on sait que dans Ainsi parlait Zarathoustra, il dit que les poètes mentent trop. Et cette question du mensonge par rapport à la poésie.
Et on sait aussi qu'il se méfie de la vérité. Si je devais répondre à la question, et de manière un peu improvisée, qu'est-ce que veut dire poète pour Nietzsche ? Je pense d'ailleurs à un poème qu'il écrit dans Dithyrambe à Dionysos, où il dit « Nur Narr, nur Dichter, rien que fou, rien que poète ». Donc ce serait peut-être déjà une première réponse, il y a dans la figure du poète, pour Nietzsche, probablement quelqu'un qui se soustrait ou se déporte de la froide rationalité. C'est aussi un danseur. C'est l'image du philosophe artiste. C'est en ce sens aussi qu'il est anti-philosophe. Il a récusé l'idée d'un philosophe qui serait pétri dans une sorte de posture académique. C'est évidemment lié à sa critique de la métaphysique, à sa critique du culte de la vérité ou du culte de la raison. Et à cela, il a opposé la figure d'une espèce de danseur. Zarathoustra, il est là souvent. Alors, danseur qu'on peut entendre marcheur aussi bien, parce que Nietzsche marche beaucoup. Il dit qu'il a besoin de ses heures de marche, notamment parce qu'il souffre de migraines, de ses yeux, et il a besoin de s'oxygéner, de marcher, du mouvement, pour que son corps peut-être retrouve une forme d'équilibre. Cette idée du poète-danseur, il faut peut-être l'entendre comme celui qui s'élève, hein, celui qui échappe à la gravité, et qui risque la chute aussi bien.
Il y a un côté aussi un peu shivaïste pour Nietzsche qui, lui, s'est beaucoup intéressé à l'Orient, qui en tout cas a ouvert la philosophie occidentale à l'Orient. Tout d'un coup, Shiva, qui à la fois crée le monde et le détruit par sa danse et par cette ronde du feu, n'est pas si loin de la folie de Nietzsche.
Oui, cette idée qu'il y a une sorte de mouvement de contradiction permanent, qui fait qu'au fond, on ne peut pas imaginer une élévation quelconque si on ne côtoie pas l'abîme à un moment ou à un autre. On ne peut pas imaginer un mouvement de création qui ne soit pas en même temps quelque chose qui relève d'une destruction. Répéter l'endurance, je le fais, je répète. Je réduis aujourd'hui pour qu'en dépit de l'attraction, la grande teneur des mots se désunisse moins. Pour m'en tenir à l'anecdote, je soustrais quelquefois la couleur en tant que monument, car je veux écouter. L'opération me semble aussi plaisante qu'aspirer la fumée des histoires en plein air. Je m'y adonne, puis décide d'aller voir ce dont je suis capable. Pour ça, j'annule mentalement les pieds des chevaux plats, sans quoi les modeler encore m'épuiseraient terriblement si j'étais peintre de bataille. Or, ce n'est pas le cas. J'élève seulement mon nuancier à la hauteur d'un guide-champ collecteur d'émotions pour une forme de vie nouvelle. J'apprends alors à lire, autrement dit, je lis. Je monte d'un cran, je prélève des fragments, n'abordant pas une ligne, pas un seul mot, une lettre à leur sujet sans les avoir méthodiquement oubliés. C'est ça, oublier. En vérité, je ne veux rien altérer de la puissance qu'ils véhiculent, seulement jeter un œil jusqu'au plafond, histoire d'observer qu'une fois encore, le ciel, là-haut, fait du trapèze sans filet ni tutu. La matinée va prendre fin. Je suis assis au beau milieu d'un froissement de feuilles et je lis un courrier composé. Ce sont des lettres et des cartes postales, une affaire qui ne m'est pas adressée. L'ensemble couvre une période de 23 ans pour s'interrompre en 1888. En avoir fait un livre relève d'un artifice éditorial que je parcours sans intention particulière, mais non sans éprouver une sorte de passion calme. Depuis que je suis arrivé, la porte bat, elle bat. Heureusement, je ne dors pas. Je me tiens au présent en militant fervent. Moyennant quoi j'affirme que le passé figure à l'inventaire des expédients du romancier, que je délaisse volontairement. Il me semble qu'ici, ce ne sont ni les mots qui commandent la vitesse ou la lenteur des phrases, ni même ce qu'ils signifient, mais, comme je veux m'en assurer, mes yeux connaissent soudain des mouvements nerveux.
Ce petit livre-là, Pierre Parlant, Les courtes habitudes, contrairement à son format et au nombre de pages, une petite centaine, condense près d'un quart de siècle de correspondance, puisque vous êtes parti de ces lettres et cartes postales de Nietzsche, allant de 65 à 1888, juste avant la démence. Pour vous, les avoir lus et relus, j'imagine, depuis Nice, avec ces lieux que vous citez, Petite rue Saint-Étienne, rue des Ponchettes, Pension de Genève, ça avait du sens d'être in situ, pour ressentir et pour dire après, qui plus est, en poème?
Ça avait d'autant plus de sens que ce qui me retenait dans la correspondance de Nietzsche, au fond, c'était plusieurs choses. La première chose qui est troublante, mais ça n'est pas vrai de la lecture des lettres de Nietzsche, c'est vrai de la lecture de toute correspondance, c'est qu'une correspondance, quand on la lit, elle ne nous était pas initialement adressée. Or, le fait de la lire fait de nous des destinataires. Et on est dans une situation un peu étrange.
Un peu tordue.
Un peu tordue. On peut même se sentir un petit peu mal à l'aise d'être une espèce de tiers. Ceci étant, elles sont publiées, on les lit. La deuxième chose, c'est que ce à quoi j'étais très sensible dans ces lettres-là, évidemment, un ensemble important de choses, mais en particulier les mentions très empiriques, les détails, les inflexions, ce que Barthes appelait les biographèmes, le nom des rues, ce qu'il mange, un trou dans le vêtement, une couleur qu'il aperçoit, le tremblement de terre avec les gens qui sortent dans la rue et les chiens qui aboient. Toutes ces choses qui étaient presque des effets de réel, quand on les lit aujourd'hui, mais au moment où Nietzsche écrit ça, étaient des façons d'être sensible à des occasions réelles de ce qui arrive, qu'il consignait dans cette correspondance, qu'il adressait à ses amis, et qui, peut-être dernière chose, qui, d'une certaine manière, lorsqu'on se promène à Nice, quel lapsus, lorsqu'on se promène à Nice et qu'on a en mémoire ou en tête cette correspondance, on peut avoir presque par moments le sentiment que la chose perdure d'une manière un peu spectrale. Telle ambiance, telle couleur, tel nom d'un plat que Nietzsche a goûté à Gênes, à Rapallo ou à Nice, un peu comme s'il y avait une survivance.
Cela, c'est aussi en vous, Pierre Parlant. Lorsque vous écrivez « Je me tiens au présent en militant fervent », on entend à la fois le presque vengeur du maître Nietzsche et ce disciple apprenti philologue qui ne cesse de remettre ses pas dans les pas.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Se tenir au présent, qui est en réalité une espèce de vœu, parce qu'on se tient au présent, à ceci près que le présent, au moment même où il est là, il cesse d'être.
C'est tous les jours un boulot à recommencer.
Voilà. Mais pour Nietzsche, en tout cas, c'était se tenir vers l'avenir, plutôt que se lester du passé. Et ce qui est étrange, c'est que l'avenir de ce qu'a été la vie de Nietzsche...
Après Nice. Après 1888.
Voilà. Après et avant, constitue encore un présent pour nous, pour peu qu'on ait cette correspondance à l'esprit ou la lecture de certaines des œuvres qu'il a pu composer lorsqu'il était à Nice. Encore une fois, comme une survivance, comme quelque chose qui serait intempestif, pour prendre un mot très, très Nietzsche, hein, c'est-à-dire hors du temps, inactuel.
Ce moment-là de la vie de Nietzsche à Nice est plutôt sombre et tourmenté. C'est la période où il s'est brouillé avec Wagner, où il n'est plus avec Lou Andrea Salomé. Enfin, il y a un moment de solitude et d'effondrement du temps aussi, même au présent, que l'on perçoit dans cette correspondance, que vous glissez dans ces courtes habitudes, à la fois en vous appuyant dessus, Pierre Parlant, et en même temps en la pulvérisant presque.
Oui. Alors, la question du tourment, c'est une question qui est presque constante dans la vie de Nietzsche. Là, elle prend un accent particulier, en effet, pour les raisons que vous évoquez, pour des raisons qui sont liées à des drames subjectifs et à la maladie.
Mais bel et bien réel.
La question de la solitude, c'est une question un peu plus ambivalente, parce que c'est à la fois quelque chose dont il souffre, et la fréquence de ses lettres et le fait qu'il a des correspondances assidues montrent à quel point il est très attaché au fait d'avoir des liens avec des amis qui ne sont pas là et qu'il invite à venir le rejoindre, notamment quand il est en Italie. Et en même temps, il y a la revendication presque héroïque de cette solitude irréductible qui fait qu'elle est la condition d'une existence pleinement vécue ou en tout cas pleinement affirmée. Et c'est très étrange de voir à quel point ce qui est ce lot revendiqué, nous ne sommes que seuls, et au fond, quelqu'un qui récuserait cette solitude existentielle, hein, pour prendre ce mot qui ne conviendrait pas à Nietzsche, mais peu importe, c'est quelqu'un qui serait dans une espèce de naïveté, une espèce d'aveuglement. Mais en même temps, évidemment, elle peut être cause de tourment. Il y a à cet égard des choses tout à fait étonnantes. Quand il est à Gênes, notamment, et qu'il écrit à ses amis, il écrit beaucoup, plusieurs fois par jour, des lettres, des cartes postales, il change plusieurs fois de logement. Cette errance, moi, m'a beaucoup intéressé. C'est aussi, elle est homogène à la construction d'une pensée qui se cherche
Et qui a besoin de bouger pour se trouver.
Exactement. Quand il est à Gênes, donc, plusieurs fois, il change de domicile. Bon, la ville n'est pas très grande, mais enfin, il change de rue, il change de pension. Et on voit plusieurs fois cette mention étrange qui consiste à dire « Surtout, ne dites à personne là où j'habite ». C'est-à-dire qu'il a besoin d'écrire à ses amis, il a besoin qu'on sache qu'il est quelque part, il a besoin, d'ailleurs, il raconte ce qu'il y fait, ce qui le séduit, ce qui l'irrite. Et en même temps, tout se passe comme s'il voulait être insaisissable, comme s'il était très soucieux de ne pas laisser de traces, d'être une espèce de sans domicile fixe. Et quand je suis Nietzsche dans ses pérégrinations, je vois bien à quel point il est à la fois exalté, déçu, irrité, sur le départ, désirant revenir. On est toujours dans une sorte d'ambivalence systématique, si bien que je crois qu'on commettrait une erreur si on disait qu'il est plutôt parmi ceux qui se cherchent ou plutôt parmi ceux qui se fuient à travers le voyage.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Quel est cet effet Doppler que vous évoquez entre la lecture d'une phrase, donc dans une lettre de Nietzsche, et son dépôt en vous, Pierre Parlant ? Et le mot dépôt dit bien quand même le temps que ça a pris pour sortir aujourd'hui aux éditions Nous, sous le titre « Les courtes habitudes, Nietzsche à Nice ».
Bon, l'effet Doppler, c'est un phénomène physique qui consiste au fond à, quand je le mentionne et de manière analogique et de manière très, très peu rigoureuse scientifiquement, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'idée qu'il y a un délai, un écart, une espèce de suspension entre la chose lue, la chose écrite, et l'effet qu'elle est capable de produire, même sur un plan de sa frappe acoustique, avant même que ce soit un effet signifiant. Tout se passe comme si, au fond, alors c'est vrai pour Nietzsche, mais c'est vrai sans doute pour tous les auteurs qu'on lit, en même temps qu'on les lit, on apprend à lire, tout court.
Ces lettres-là, vous les avez lues combien de fois ?
Je ne sais pas combien de fois je les ai lues. Je sais que certaines, je les ai beaucoup relues. Je sais que certaines, je les ai relues et j'ai tenté de les traduire parce que c'était aussi intéressant d'aller voir comment les choses se disaient.
Oui, parce qu'avec Nietzsche, il y a aussi la question de la traduction.
Voilà. Mais cet effet-là dont on parle à l'instant, qui est cet effet de séparation de la chose d'elle-même, la phrase et ce qu'elle produit, hein, l'écart, le délai. Pour moi, il est aussi assez symptomatique de l'acte de lecture. Et Nietzsche lui-même définissait le philologue, non pas comme classiquement celui qui étudie les textes anciens et les traductions, mais dans un autre sens, le philologue, c'était celui qui apprenait à lire et qui apprenait à lire le texte en tant qu'il était capable de trouver dans ce texte le vrai tempo de ce texte-là. Chaque texte a un régime propre, au fond. Imaginez qu'on peut lire tous les livres du monde et tous les auteurs avec le même rythme ou le même tempo, c'est à coup sûr être condamné au contresens ou à quelque chose de cet ordre-là.
Mais est-ce que ça veut dire aussi tout simplement que ça vous fait battre le cœur, plus d'un siècle après ?
Alors ça fait battre le cœur, oui, à plus d'un titre. Ça fait battre le cœur parce qu'il y a des motifs d'émotions sur le terrain de l'affect. Par exemple, dans la correspondance, il y a des moments où on a le sentiment que Nietzsche vit des situations de souffrance et de détresse auxquelles on ne peut pas être indifférent. Ça fait battre le cœur, peut-être de manière plus métaphorique, sur un terrain intellectuel, parce qu'il y a des fulgurances et des événements de pensée. On se trouve plein de gratitude quand on a lu ça.
Comme cette phrase toute simple qui dit « L'hiver est un entracte qui fait du bien ». C'est Nietzsche qui dit ça à Nice.
Il est venu systématiquement l'hiver à Nice. Il se trouve que l'hiver à Nice, c'est à cette époque-là, aujourd'hui, peut-être c'est moins sensible, mais à cette époque-là, sans doute, l'hiver à Nice est un hiver qui porte à la fois bien et mal son nom, parce qu'il n'y a pas les traces objectives de l'hiver, il n'y a pas les traces objectives du gel, du givre, de la neige.
Contrairement à Weimar, où il va mourir.
Voilà. Et en même temps, il y a quelque chose de coupant, il y a quelque chose d'austère aussi bien. Il y a aussi du froid. Il se plaint du froid dans ces pauvres chambres qu'il occupe. Sa mère lui fait parvenir un petit poêle à charbon. Il parle de ses doigts bleuis par le froid. Là, ça fait battre le cœur. Quand Nietzsche parle de ses doigts, le bout de ses doigts qui sont bleus à la fois à cause du froid, mais aussi peut-être à cause de cette encre qui fige, d'une pensée qui est paralysée et qui demande à aller dehors, à se mettre en mouvement pour retrouver peut-être la pulsion vitale qui est celle de l'esprit, oui.
Ce livre, Les courtes habitudes, Pierre Parlant, rappelle un peu votre Pas de deux, qui était paru en 2005 aux éditions MF. Si ce n'est que là, Nietzsche a remplacé Jean-Jean, cet être de renom, sans renommée aucune, comme vous l'écriviez. Et pour vous, est-ce qu'il faudrait toujours partager, quitte à vous faire passer pour une moitié de poète? Le narrateur ne peut jamais être seul. Est-ce que vous ne pouvez écrire, et là, en l'occurrence, des poèmes, sous votre seul nom, avec votre seul mouvement, sur votre seul tempo, où il faudra toujours un compagnon, qu'il soit Jean-Jean ou qu'il soit Nietzsche?
Je vais répondre par une pirouette, et puis ensuite peut-être je répondrai sérieusement. Il y avait une devinette qui, enfant, me faisait beaucoup rire. C'était à propos de Tintin et Milou. Et la devinette, c'était je suis et ne suis pas Tintin, qui suis-je ? Alors la réponse, évidemment, c'était Milou, qui suit du verbe suivre, mais qui n'est pas Tintin. Dans Pas de deux, que vous mentionnez à l'instant, la dernière phrase du premier chapitre, c'était effectivement je suis et ne suis pas Jean-Jean. C'est-à-dire je suis du verbe suivre quelqu'un dont la trace peut être repérée ici ou là, tout en n'étant pas ce qu'il est. Alors maintenant, si je réponds sérieusement, oui, tout se passe comme si. Et ce livre-là est en fait un des livres d'une trilogie sur laquelle je travaille, avec un autre qui est terminé et un troisième qui est en voie d'achèvement. Tout se passe un peu comme si je faisais quelque chose qui relèverait d'une espèce d'autobiographie d'un autre. Comme si j'avais besoin de la médiation
pour dire je
d'un
suis.
Tiers, pour dire
en
je
suivant
suis,
un autre.
Ou en tout cas pour accuser le trait de quelque chose qui serait un soupçon porté sur le jeu tout court. Parce qu'il y a un narrateur qui dit je. Mais ce jeu, il est dans le dispositif d'une sorte de duplicité, hein, dans tous les sens. L'amour en lui pour cette ville est impérieux. Affaire de clarté, de climat, de nom propre, de musique, de santé, toutes choses que je ne devrais pas ici écrire séparément et que le mot « séjour » que je trouve dans cette lettre tente de saisir, mais assez mal. Nice, mais vraiment nécessaire, je n'ai pas le droit de l'oublier. Depuis avril dernier, je ne suis parvenu à aucun bien-être, tant corporel que psychique. Mais depuis quelques jours, cela va de nouveau. C'est pourquoi je maintiendrai mes séjours à Nice comme une part de Fatoum. C'est ce qu'il écrit à HK, ce 19 novembre 1886. Venir ici pendant l'hiver suppose à présent, nonobstant le réchauffement planétaire annoncé, dès le péage autoroutier, la vue d'une large bande étincelante posée sur les sommets les plus éloignés des montagnes contre un ciel plus que bleu. Au loin, c'est l'Italie. La neige y trace son horizon brisé, du mois de novembre jusqu'au jour de Pâques. Perdant de la hauteur, le schéma se déploie en dégradant le surplis nuageux, sous une traînée d'averses, tout en obliques réglées, lesquelles s'achèvent en longs et mornes épisodes pluvieux, faisant de la mer une soupe d'algues, indiscernable du ciel, comme ça arrive en mars, avril, en juin. L'évidence de cet enchaînement me comble. Grâce à la persistance lointaine de la neige, Fatoum cesse en effet d'être un vocable, un substitut vieillot de l'idée plate de destin. Voici que je pense soudain à Z, le poète trévisant, m'ayant dit voir dans les phénomènes météorologiques l'ultime refuge des dieux.
Et quand vos poèmes parlent de captation par l'œil et par l'oreille, et là, dans le cas d'une lecture donnant naissance à l'écriture, la lecture des lettres de Nietzsche qui donne naissance à l'écriture de vos propres poèmes, la bascule semble presque naturelle. Pour autant, tous vos vers restent brefs. Et on sent qu'il faut capter quelque chose et que c'est toujours fragile.
Lorsqu'il s'agit de vers, oui. Lorsqu'il s'agit de vers, il y a quelque chose qui est peut-être hanté ou inquiet à l'idée de ne pas saisir et donc de le faire vite. Il s'agit d'attraper vite, peut-être. Mais ça, c'est la première partie du livre ici. Puisque la deuxième partie, c'est une prose poétique où là, le geste s'allonge.
Et la troisième, elle est composée seulement d'une photographie, noir et blanc. Ce sont des traces, alors peut-être d'un oiseau quelque part. C'est vous qui savez, Pierre Parlant, ce que ça représente, cette photo-là, qui est assez... C'est un clin d'œil. Il y a un côté un peu enfantin, une première partie, une deuxième, qui quand même disent qu'il a fallu du temps, qu'il a fallu de l'écriture, qu'il a fallu de la réflexion. Et là, tout d'un coup, hop, une photographie. Et alors, en gros plan, ça fait des grosses traces quand même. Ça fait un oiseau plutôt monumental.
Ça fait un oiseau, oui. Enfin, on reconnaît des traces. Ce qui m'avait évidemment plu dans cette trace-là, c'était quelque chose qui est tout le paradoxe de la trace de l'oiseau, qui est à la fois suffisamment pesante pour laisser quelque chose comme une archive, mais quand l'oiseau s'est posé sur la neige, il l'a fait pour pouvoir ensuite s'envoler. Donc il y a une espèce de... C'est un vestige.
Et là, les traces se recoupent en plus.
Et les traces, en plus, forment un graphisme très étrange. On ne sait pas exactement. C'est un peu comme s'il y avait eu un signe. Un clin d'œil enfantin, peut-être, parce que je me suis dit que ça faisait à soi seul une partie, ce qui est un peu excessif, peut-être. Ceci dit, quand j'ai pensé à cette image que j'avais donc en archive et que j'ai voulu l'injecter dans ce livre-là, je me suis aussi souvenu de cette formule de Nietzsche qui dit que les pensées qui changent le monde, qui conduisent le monde, arrivent à nous sur des pattes de colombe.
Et dans Zarathoustra, sur les poètes, il y a ce passage où il dit que les oiseaux sont là, mais pour s'envoler, comme les paroles aussi.
Voilà. Donc il y a cette idée d'une légèreté et de quelque chose qui pourrait passer inaperçu, qui pourrait être imperceptible. En l'occurrence, c'est dans la neige, une heure après, si le soleil s'est levé, il n'y a plus rien du tout. Donc il y a une espèce d'attention à porter à quelque chose qui pourrait être très fugitif et qu'on aurait pu ne pas voir, mais qui peut avoir aussi une espèce de coefficient de gravité ou d'importance, si c'est de la vérité qui est en jeu, ou chez Nietzsche, les pensées qui conduisent le monde.
Un peu comme l'idée de savoir si on va lire ses lettres ou si on va les laisser mourir.
Oui, de toute façon. Oui. Il y a une grande précarité dans ces traces. Il y a une grande fragilité. Mais si l'œil s'y arrête et si l'œil prend le temps de les scruter, de les ruminer aussi bien, elles ont un poids. Alors, le poids de la légèreté d'une lettre sur du papier, mais elles ont un poids ou en tout cas un lest de signification et d'interprétation très grand.
Les courtes habitudes de Pierre Parlant, sous-titrées Nietzsche à Nice, sont publiées aux éditions Nous. Ça rime à quoi ? 24h sur 24 sur franceculture.fr pour écouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Ça rime à quoi ? Valérie Lavalard, Bernard Laniel, Sylvia Favre, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.